Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Ah, les amis, bonjour à tous, bon dimanche. Avant d'aller faire votre marché, eh ben on se retrouve place du marché. Hein. C'est là que ça se passe le dimanche matin. On va parler charcuterie aujourd'hui. Ah ouais, ouais allez, on se fait plaisir. Mais pas toute la charcuterie, on va parler d'une charcuterie qui n'engendre pas la mélancolie, hein, on peut le dire, dans le produit que l'on va traiter. La charcuterie embossée, la charcuterie poussée, hein, comme on dit dans le métier. Aujourd'hui, on va parler de saucisses. Et oui, la saucisse. La saucisse ou les saucisses. Oui, saucisses, saucissons, boudin, andouille, etc. La saucisse, un produit qui réunit le monde entier. Parce qu'on en trouve partout, enfin ou presque. Il y a peut-être au Vanuatu, je ne sais pas, mais en tout cas, sûrement une idée de saucisse, en tout cas dans le coin. Alors pour en parler, ce matin, je reçois une amoureuse de la saucisse. Bonjour Émilie Greenberg.
Bonjour Vincent.
Alors pourquoi est-ce que je dis une amoureuse de la saucisse ? Parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle, alors c'est très clair, « J'aime la saucisse ».
Voilà. Hein, plus clair, c'était compliqué.
Vous vouliez mettre tout de suite les points sur les « i », hein ?
Voilà, c'était simple, direct.
Ah, direct. Voilà, et on sait de quoi il s'agit. En face de vous, j'ai fait venir un spécialiste, une amoureuse d'un spécialiste, c'est bien, c'est un beau plateau. C'est Pascal Joly, qui est meilleur ouvrier de France, charcutier et traiteur à Paris. Bonjour Pascal.
Bonjour Vincent, bonjour Émilie. Bonjour.
Et alors, Pascal, vous êtes un peu notre maître capello de la saucisse. Hein. Quand on est mof charcutier, on a dû en pousser des saucisses dans sa vie.
Tout à fait, ouais. J'aime la saucisse aussi, déjà. Et oui, j'en ai, voilà. On a fait pas mal.
Et ben, tout à l'heure, on passera des coups de fil à des amis parce que la saucisse, avant d'être internationale, elle est régionale en France, comme on le découvre dans votre livre, qui est extrêmement bien fait. D'ailleurs, moi, je l'aime beaucoup, votre livre. C'est pas la saucisse que j'aime, c'est votre bouquin, si j'adore la saucisse aussi, mais parce que je trouve que c'est assez ouvert, œcuménique, objectif. Hein, vous avez voulu délaisser personne. Alors, vous n'avez pas encore été en Chine pour goûter les saucisses du sud-est asiatique, mais ça viendra. Ouais. Mais enfin, voilà, une sorte de... On dirait une petite entre une encyclopédie et un guide des saucisses, en tout cas en Europe et aux États-Unis.
Ouais, complètement. Alors pour les États-Unis, c'était plus compliqué, ouais, mais oui, sûr. Effectivement, pour l'Europe, c'était plus facile. En France, c'est plus pratique. Mais oui, c'était ça l'idée. Ouais. C'était
du coup, voyager. Vous avez voyagé et goûté.
Ah, j'ai beaucoup goûté. Ah,
c'est pas sur catalogue, c'est pas sur internet que ça a été.
Non, c'est goûté.
Goûter, c'est important. Alors, Émilie, la première question qui me vient à l'esprit, pour une jeune femme comme vous, d'où vient cette idée de faire un livre « J'aime la saucisse » ? C'est depuis quand ? Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ? Cette maladie vous a frappé quand ?
Non, mais je sais pas. En fait, je crois que j'aime vraiment ça. C'est sympa, on peut en avoir partout, on voyage, on en trouve partout. Vous faites des dîners, les gens viennent avec un saucisson, parce qu'il y a aussi les saucissons.
Eh oui, bien sûr, c'est parti les saucisses.
Et non, mais ce que je voulais, c'était parler de ce produit-là, mais surtout parler de tout ce qui va avec. Mm-hmm. Voilà, vous mangez une saucisse et il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais on mange quoi avec ?» Alors souvent, c'est purée, mais il n'y a pas que purée, en fait. Il y a lentilles, il y a des frites, voilà, il y a des salades. Vous voyagez, vous les avez, il y a des grandes, des petites, des grosses, toutes les couleurs. Voilà, enfin, je sais pas, je trouvais ça drôle, en fait.
Ouais, oui, c'est ça. Alors, vous dites drôle, c'est pour ça que je disais en préliminaire, ça n'engendre pas la mélancolie, la saucisse. Il y a un côté convivial, il y a un côté, ça réunit les peuples.
Complètement. Et puis, ouais, dans tous les pays, il y en a. Donc, c'est... Voilà, vous faites un match aux États-Unis, vous avez un hot dog, vous êtes dans un spectacle, vous avez des sandwichs, vous êtes, je sais pas, moi...
Oui, c'est ça. Et la saucisse universelle. Hein. Alors, dans l'univers, je sais pas, mais sur la planète Terre, il y en a à peu près partout, effectivement. Mais il faut dire d'abord que la forme livresque, ce n'est pas un hasard, c'est votre métier d'abord.
Hein. Voilà, vous n'êtes pas charcutier de métier,
vous êtes graphiste.
Du tout.
Et vous avez travaillé pour des maisons d'édition pour, en fait, fabriquer des livres. Enfin, mener à bien le projet d'un livre avec un auteur.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment mon travail. En général, je les mets en page. Et celui-là, c'était développer un concept de livre de cuisine un peu différent.
Oui.
Pas que des recettes.
Entre guide et cuisine.
Hein, entre guide et cuisine.
Voilà,
ouais.
Le produit est très mis à l'honneur, avec une iconographie très sympa. Je dis très sympa parce qu'il n'y a pas ce côté empoulé parfois, de très beaux livres, etc. C'est un peu le petit manuel qu'on a envie d'avoir avec des photos Instagrammées, des photos faites sur votre portable. C'est vivant. Voilà.
C'était ça l'idée.
La saucisse vivante.
C'était la saucisse vivante. C'est un livre qu'on peut mettre dans sa poche, qu'on peut avoir un peu partout. C'est pas comme un beau livre chic. Ouais. Non, c'est simple. C'est comme
le petit manuel.
Saucisse, quoi.
Le petit manuel. Pascal, vous l'avez feuilleté, Pascal Joly.
Tout à fait, ouais.
Ça vous plaît la forme, hein,
c'est... Énormément.
Ouais.
C'est très jeune, c'est moderne, c'est très agréable à feuilleter, c'est ludique, c'est très ludique.
Et puis je sais que votre œil de meilleur ouvrier de France charcutier a traqué la faute ou au moins l'imprécision, etc. C'est assez complet, hein, on ne va pas en profondeur dans chaque saucisse.
Mais... c'est un bel ouvrage. Ouais. C'est complet, c'est très sympa.
Alors, il faut dire, on en profite, hein, puisqu'on est à l'antenne. Vous l'avez publié à compte d'auteur, ce livre.
Oui, complètement, oui.
Hein,
ouais,
donc, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas une maison d'édition qui vous a soutenu, mais si elles nous entendent aujourd'hui, elles peuvent toujours vous appeler.
Ah ben oui, elles peuvent, je suis ravie. Mais pour le moment, voilà, c'est à compte d'auteur.
Ouais, à compte d'auteur. Et c'est bien dommage, parce que du coup, la diffusion doit être un peu compliquée. Et si nos auditeurs cherchent ce livre, il faut passer par quoi ? Par un site internet ?
Oui, il y a mon site internet, c'est j'aime-la-saucisse.info.
J'adore, j'aime-la-saucisse.info. Toutes les infos sur l'amour de la saucisse.
Exactement. Donc là, on peut directement, oui. Puis sinon, non, il est dans quelques librairies. En fait, je fais les librairies et puis je fais aussi les traiteurs. Il y en a qui le prennent. Il y a des petites épiceries où ils ont des saucissons, des spécialités.
Oh, Pascal Joly va mettre un petit monde. Présentoir. Hein.
Bien sûr.
Ah, bah voilà. Alors, bien sûr.
Voilà. Donc, en fait, non, c'est du porte-à-porte, ouais, complètement.
Alors, effectivement, c'est un livre qui est assez didactique, qui est très agréable, facile à lire. Si vous n'y connaissez rien, ou même si vous êtes un connaisseur, je dirais comme, un peu comme moi, parce que la saucisse, les saucisses, je m'y suis intéressé depuis un moment, on trouve des informations, des choses amusantes ou précises ou intéressantes, des bonnes infos. Enfin bon, je vais arrêter de faire la pub de ce livre pour qu'on parle un petit peu des saucisses. Alors il y a un truc qui m'a fait très plaisir, Émilie. Je ne sais pas comment vous avez construit le projet, mais évidemment on commence avec, une petite encyclopédie des saucisses françaises. Mm-hmm. Et alors, ça n'est pas alphabétique, mesdames et messieurs, et pourtant... La première saucisse mise en avant, à l'honneur, c'est la saucisse de Morteau. Et moi, vous savez, j'ai d'origine franc-comtoise, ça m'a touché énormément. Vous aviez fait ça pour moi ?
Oui, oui, complètement.
Ah bah voilà, ça c'était prévu.
C'était prévu, j'ai fait exprès. En fait, le livre, il a un format un peu spécial parce que ce que je voulais, c'était pouvoir mettre les saucisses à taille réelle. Donc elles sont toutes à taille réelle, on les a photographiées.
Absolument. Elles ont,
ce qui fait qu'on peut se rendre compte de l'échelle. Mmh. Donc comme je suis graphiste, j'ai quand même pensé à une mise en page. Et la Morteau, la couper, ça n'a pas de sens. On ne peut pas l'avoir. Donc en fait, c'était...
Alors on ne la mange pas entière non plus. Hein.
Ah bah si.
Même les gros appétits. Ah, vous mangez une Morteau entière, vous ?
Ah, j'ai eu le malheur de faire un Jésus un jour.
Oh là là ! Ah oui, alors le Jésus de Morteau, c'est encore double.
Ouais,
ouais, mais c'était trop bon. Mais, mais en fait, ouais. Et puis c'est surtout qu'elle est très jolie. Et puis c'est, je sais pas, dans les saucisses, c'est la plus, enfin...
Ah bah oui. Et puis alors, vous savez quoi ?
C'était peut-être l'hiver, hein, du coup, obligatoire, mais...
Ce qui me plaît bien, vous relatez une fameuse publicité où l'on nous vendait 20 cm de bonheur, avec l'œil qui rigolait un petit peu, mais vous avez dû en entendre quand vous avez cherché des éditeurs pour J'aime la saucisse, comme jeune femme.
J'en entends tout le temps.
Je me doute, oui. on a le côté grivois et gaulois, mais ça accompagne aussi, mais vous en jouez aussi dans le bouquin, parce que vous vous moquez effectivement de votre phrase vous-même. Mais alors, la Morteau, moi j'ai appris un truc incroyable. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Franche-Comté, il y a la Morteau et la Montbéliard, grosso modo. Hein. La Montbéliard est plus petite.
Ouais.
Et puis il y a ce goût de Pascal, de ce carvi, quoi, ce cumin sauvage qu'on met dedans.
Tout à fait, oui, oui.
Hein, ça va complètement changer. Ça va aniser un petit peu.
Exactement. Puis bon, c'est vraiment une fabrication avec ses typicités régionales. Le fumage, enfin tout ça, c'est tout un art.
Alors, il y a un petit bâtonnet qui ferme la Morteau.
Tout à fait.
Ouais.
Et c'est du sapin, hein, parce que ça manque pas hein, dans le Jura et dans le Doubs. Et alors là, j'apprends un truc incroyable. Vous mettez dans le texte ce bâton qui se mange.
Oui.
La cheville en sapin, elle se mange.
Oui. On
et qui mange ça
Les fans. Non, mais on peut parce qu'effectivement, elle a du goût. Elle est, donc voilà, on n'est pas.
Mais c'est dur comme du chien, c'est du bois.
Ah ben je sais pas, moi vous sucez votre petit bâton, puis au bout d'un moment ça s'effrite.
Ah ben les dents. Vous passez combien de temps sur les sucettes, vous Alors là, écoutez, là les franc-comtois qui nous écoutent aujourd'hui, c'est ça.
Ouais.
Non, elle se mange, ça veut dire que c'est comestible, mais effectivement,
exactement.
On n'est pas obligé, on peut se faire un cure-dent avec peut-être.
En
taillant un peu.
Voilà,
en taillant un peu cette cheville.
Tout à fait.
Bon allez, les amis, restez avec nous sur la place du marché où l'on parle de saucisses en compagnie d'Émilie Greenberg, qui est l'auteur de « J'aime la saucisse », surveillé de près par notre meilleur ouvrier de France charcutier, Pascal Joly. Et croyez-moi, on va faire un tour d'Europe de la saucisse. Je crois que ça va vous donner faim un petit dimanche matin.
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
10h-11h, l'heure non pas du crime, l'heure du repas qui approche. Et on va se donner faim puisqu'aujourd'hui, on parle d'un ouvrage publié par Emily Greenberg, auteure et fabricante de ce livre. En plus, J'aime la saucisse. Là, on a tout dit. Si vous n'aimez pas la saucisse, ça va être difficile pour vous. Mais en revanche, les amoureux de la saucisse, et ils sont nombreux, restez avec nous parce qu'on va faire un petit tour d'horizon des saucisses en Europe. Alors, avant de commencer notre tour d'Europe, Pascal Joly, sur le plan technique, la saucisse, c'est quoi, en fait ?
La saucisse, c'est avant tout de la viande et du gras. Voilà.
Mais dans un contenant ?
Ah oui, dans du boyau. Alors, qui peut être du menu de porc, du menu de mouton, de différents calibres, dans aussi de la robe, qu'on appelle.
C'est un boyau.
Voilà, dans du menu de bœuf, aussi.
Alors, ce qu'il faut le dire aussi... dans du synthétique quand c'est industriel.
Ah oui, tout à fait.
On a des boyaux plastiques aussi.
Enfin, exactement. Bon, moi, j'en utilise pas, mais effectivement, ça existe.
Non, mais pour autant, et on le verra dans un instant, dans la charcuterie allemande et alsacienne, notamment des ce qu'on appellerait des saucisses à tartiner, etc. C'est pas gênant parce que là, le boyau se mange pas, donc ce n'est qu'un contenant, Émilie. On est d'accord.
Oui, complètement.
C'est que dans le cas où on mange le boyau, comme dans je sais pas une saucisse de Francfort ou de Strasbourg.
Tout
là,
fait.
Évidemment, il vaut mieux avoir un boyau naturel, c'est sûr. Allez, Émilie Greenberg, ouvre votre livre et on terminera par la France tout à l'heure, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a tellement à dire. On ouvre votre livre et on va commencer un peu par une nation qui m'a surpris, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Vous avez été en Grande-Bretagne, alors moi l'idée que j'en ai, si je me réfère à mes souvenirs de gamin, quand je faisais des voyages linguistiques, quand on était dans les familles anglaises, on nous servait le matin un œuf, généralement un œuf au plat, pas très bien cuit d'ailleurs, des baked beans. Des baked beans sont des haricots blancs dans une sauce tomate sucrée, en boîte. Et en général, ce que les Anglais appellent les porkies, les porcinets, quoi, en quelque sorte, qui sont des saucisses donc de porc. Mais c'était super industriel.
Alors, oui, c'est comme tout, en fait. C'est-à-dire que vous avez aussi des charcutiers qui les font, effectivement, mais vous avez quand même une tradition de saucisses anglaises. Mais effectivement, oui, souvent, on les achète là-bas et ils les appellent bangers aussi.
Ah oui, les bangers. Et
bangers.
Alors, je découvre que, dans votre livre, qu'il y a deux grandes familles, les Cumberland, d'un côté. C'est quoi la saucisse Cumberland ?
Alors, la saucisse Cumberland, on pourrait presque, je trouve, un peu la mettre un peu comme la Toulouse. Normalement, c'est une saucisse au maître aussi. En
d'accord.
fait, elle est en forme d'escargot
d'accord.
elle se mange beaucoup avec de la purée.
D'accord,
mais
d'accord.
Elle est très poivrée.
Oui, relevée quoi, vraiment relevée.
Elle est vraiment relevée et... Je sais pas comment. Voilà, c'est la plus. Enfin, quand vous mangez ça au petit déjeuner, effectivement, ça vous donne un petit coup de fouet un peu sympa. Et elle existe donc soit en escargot, soit en tout petit
ça.
Maintenant.
Au mètre, quoi. En
ouais,
fait,
elle existe
à la coupe.
Exactement, à la coupe.
D'accord. La saucisse à la découpe, comme la saucisse au couteau d'Auvergne, par
exactement.
Exemple.
Exactement. Voilà.
D'accord.
Donc c'est vraiment.
Et l'autre grande famille, c'est l'autre grande famille anglaise, la Lincoln.
Ah oui, la Lincolnshire.
Lincolnshire.
Tout à fait.
Alors ça, c'est quoi la différence?
C'est ce que vous allez mettre dedans, mais parce que en fait c'est comme toutes nos saucisses à nous, ils ont il y en a qui vont être à la pomme, il y en a qui, mais finalement dans la préparation c'est plutôt la même chose, c'est
ah
toujours
ouais, ouais, à la base,
non il y a pas
il y a
pas,
deux régions mais il y a pas de grande différence de l'une à l'autre.
J'ai pas trouvé
d'accord,
si y a un peu de chapelure, mais
j'allais venir parce que la chapelure c'est un peu un cache-misère. C'est souvent, d'ailleurs, c'est souvent à ça qu'on juge la quantité de viande dans une saucisse, qui quand même parle de la qualité. Mes souvenirs, c'est que quand je regardais le paquet chez Marks & Spencer, j'y voyais beaucoup de chapelure, quoi. Parce que c'est pas cher, et puis que ça lie, et puis que ça évite de mettre trop de viande.
Alors effectivement, il y a sûrement ça. Moi, après, je suis pas charcutière, je n'arrive pas trop à faire la différence en termes de qualité. Mais j'aime bien la Lincolnshire, par exemple. Et je trouve que si vous avez des enfants, elle va plus passer.
Que la
Cumberland,
qui est poivrée,
qui est poivrée et qui peut effectivement.
Pascal Joly, notre mof, là, il écoute genre ébahi parce que la saucisse anglaise, c'est pas votre truc,
Non, pas du tout.
Vous êtes originaire d'où, vous, Pascal ?
Ah, moi, je suis normand.
Ouais, voilà. Alors, c'est pas loin. loin quand même. Hein.
Ah, c'est pas loin, il n'y a pas grand-chose à faire pour y aller. Mais...
Les Normands ont quand même conquis l'Angleterre. C'est peut-être vous qui avez... Enfin, les Normands qui ont emporté leurs saucisses là-bas. Bon, mes amis, on va passer à une autre nation tout de suite. Parce qu'il y a la grande nation dans l'idée européenne aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Hein, pour le pays de la saucisse. Voilà, quand on se fiche un peu de la tête de la gastronomie allemande, alors qu'il y a de très... Je crois que c'est le plus grand nombre de restaurants une étoile après la France. Donc, c'est pour vous dire, en Europe. On se dit, bon, bah, c'est des mangeurs de patates et de saucisses. Ouais. Hein, Wurst et Kartoffeln, grosso modo. Hein. Bon, c'est un peu caricatural, je ne vous le cache pas. Mais il y a une grande charcuterie, une grande diversité de saucisses allemandes.
Ouais, c'est impressionnant. Je crois qu'ils ont plus de 1500 variétés de saucisses, en fait, en vrai.
Donc, c'est vraiment le pays de la saucisse,
c'est
en fait.
C'est vraiment le pays de la saucisse, ouais, hein,
et là aussi, un peu régional, avec des différences de l'une à l'autre. Et surtout, j'ai envie de dire, une façon de travailler... parce que la texture est très importante. Dites si je me trompe, hein, Pascal. Hein, mais grosso modo, on peut faire deux grandes familles de saucisses. Celle hachée, hein, c'est-à-dire au hachoir, hein, comme la chair à saucisse. C'est-à-dire, hein, et celle au cutter, qui est un peu plus émulsionnée, en quelque sorte.
Ouais, c'est une pâte émulsionnée, exactement. Ouais. Ouais.
D'accord. Et justement, la charcuterie allemande, c'est beaucoup ça, hein, c'est pâte émulsionnée.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est la différence en texture et en travail ?
Ah bah, c'est deux catégories de produits complètement différentes, parce que celle qui est au hachoir, on va dire, on va mettre 80% de maigre, 20% de gras, on rajoute du sel, du poivre, muscade éventuellement, et c'est tout.
Et donc ça garde la consistance de ce qu'on y met.
Exactement. Ouais. Il y a de la mâche, si vous voulez. L'autre, c'est une pâte émulsionnée dans laquelle on incorpore de la glace pour que ça soit...
Ah ouais ?
Oui, on incorpore un peu de glace.
Et si on passait le coup de fil à un ami ?
Ah bah c'est une très bonne idée.
Hein ? On passe un coup de fil en Alsace, du côté de Strasbourg, à Haguenau. Jean-Luc Hoffmann, bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très
tout
bien.
Va bien. Alors,
bonjour
Jean-Luc.
À tous, bonjour spécial à Pascal.
Parce que... Bah oui. vous connaissez. Jean-Luc Hoffmann, vous êtes le président des bouchers charcutiers du Bas-Rhin. Donc ça, c'est une tâche qui est importante, hein, quand on sait l'importance de la charcuterie et de la saucisse en Alsace. Jean-Luc, on parlait de cette fameuse pâte à glace. À l'instant, on citait toutes les spécialités allemandes. Et en cela, je dirais que le monde germanique, c'est vraiment la spécialité, cette texture un peu émulsionnée, non ?
C'est une grande spécialité allemande, c'est vrai. Et nous, en Alsace, on a un peu hérité de cette spécialité allemande lorsque les Allemands sont venus avec leur technique de charcuter après 1870. On a gardé à peu près le même esprit de charcuter la viande et d'utiliser un cutter.
C'est-à-dire beaucoup de cervelas et des saucisses. Alors,
beaucoup de cervelas, des knacks, ce qu'on appelle la famille de Strasbourg, les knacks.
Bien sûr.
Ce genre de pâte à base de pâte à glace.
Alors, souvent, les gens se demandent, et alors c'est dans le bouquin, hein, donc je veux pas prévendre, Émilie, mais je vais demander à Jean-Luc Hoffmann. Souvent, les gens se demandent la différence entre la saucisse de Francfort et la saucisse de Strasbourg, qui s'appelle le knack. Et c'est déjà une différence d'ingrédients, on est d'accord ?
C'est une différence d'ingrédients, c'est une différence de viande mélangée. Donc on utilise le bœuf, le veau et le porc.
Pour la Strasbourg, pour le knack ?
Pour la knack. Oui. Souvent, pour la saucisse de Francfort, on n'a utilisé que la viande de porc.
Oui.
Et puis après, c'est une différence qui se fait au fumage, qui peut éventuellement aussi se faire au calibrage des boyaux.
D'accord.
C'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas trop longtemps, parce qu'il y a un match de football entre Strasbourg et Francfort, et on l'a déplacé sur le plan culinaire.
Oh, le derby de la saucisse, j'en aurais rêvé. Alors là, et j'aime autant les deux, hein, je peux vous le dire, autant une bonne Francfort qu'une bonne knack, une bonne saucisse de Strasbourg, c'est merveilleux. Alors, on peut rappeler, Émilie, que knack, ça vient du...
De knacken.
Knacken, le bruit.
En allemand, en fait. Ouais.
Ouais. Le bruit que fait la saucisse, Jean-Luc, quand on la casse, quoi, quand on la croque.
Quand on la croque.
Quand on la croque.
C'est le bruit qu'elle doit faire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention. Pour faire une bonne knack, il faut une consistance de pâte qui soit bonne, maîtrisée.
Et ouais.
Il faut également un fumage qui ne soit pas trop fort.
Oui, pas trop prononcé.
Voilà, parce que le fumage va faire que...
Ah ben, on sent plus le goût de la viande, hein.
Oui, et puis que, surtout que le boyau ne va pas knaquer de la même façon.
Ah, parce que le boyau, il claque aussi, hein, Pascal.
Il knaque, voilà, c'est ça. Et donc, après, effectivement, il faut aussi faire attention à ce que qu'il soit bien réchauffé. Hein, dans une eau bouillante, elle va éclater.
Ah bah oui, donc frémissant.
Dans une eau pas assez chaude, voilà. Alors, entre 70 et 80 degrés, on est idéalement placé.
Ah bah, vous savez ce que je fais, moi, pour mes knacks? Enfin, je me dirais si c'est correct. Je mets l'eau à bouillir, je coupe et là, je les mets dedans. En fait, je laisse l'eau refroidir derrière.
Ouais, oui, ouais. C'est une technique qui est valable.
Merci. Ah bah, je suis content. Hein, si ma famille m'entend, voilà, qu'on fasse comme ça, parce que le knack, ça éclate. Mais alors, c'est important parce que c'est le corollaire de la fabrication. Pascal, avant qu'on vous prenne en ligne, Jean-Luc Hoffmann nous disait une pâte à glace. C'est-à-dire qu'on va émulsionner de l'eau, hein, dans cette saucisse.
Alors déjà, techniquement, on est obligé de le faire parce que pour garder un certain niveau de température assez bas de la viande quand elle travaille au cutter.
Pour pas qu'elle cuise, en quelque sorte.
Alors le cutter, c'est souvent une cuve ronde dans laquelle sont placés 6 couteaux à l'arrière. Donc 6 couteaux qui vont tourner à 5-6 000 tours minute. Mmh. Et il faut savoir qu'il y a un échauffement qui se fait. Donc, pour éviter que la viande arrive à trop haute température et cuise dans le cutter, on fait un rajout de glace.
Et puis, en plus, alors, si je puis me permettre, parce que c'est le génie de la physique et de la chimie dans la charcuterie, évidemment, toute cette eau emprisonnée, quand on va la mettre à température autour de 80-90 degrés, elle va faire un petit soufflet à l'intérieur, elle va gonfler la saucisse. Hein, et c'est ça qui va claquer aussi quand on croque dedans.
Voilà, exactement.
D'où l'importance de l'eau dans la pâte, quoi, dans cette pâte à glace. Parce qu'un knack qui knack pas, personne n'en veut. Hein.
Ouais, mais c'est un peu le propre de pas mal de saucisses. Hein. Si demain vous faites une merguez et que vous ne rajoutez pas au moins 10% d'eau, votre merguez sera ultra sèche.
Eh ben, on va en parler avec Pascal Joly dans une seconde. Enfin, tout ça pour vous dire, ne confondez pas les knacks et les knackis, hein, on est d'accord. Le knack artisanal, oui, mais il faut le rappeler parce que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, ils pensent que en achetant des knackis, ils mangeant des bons knacks, ça n'a rien à voir. C'est du boyau synthétique. Dedans, il y a à peu près tout et n'importe quoi, sauf des bonnes choses. En tout cas, voilà. Allez, si vous passez en Alsace ou dans des belles charcuteries alsaciennes à travers le territoire, parce que maintenant ça a essaimé, vous saurez ce que c'est qu'une bonne Strasbourg, un bon knack. Merci Jean-Luc Hoffmann.
Tout à fait. Il y en a beaucoup en Alsace, et puis on fait un concours qui est réputé à la européenne de Strasbourg, qui s'appelle le concours de la meilleure knack.
Et
on
appelle
ça la knack d'or, c'est couru, et vous trouverez la liste sur le site de la Corporation des bouchers charcutiers du Bas-Rhin.
Et avec une bonne bière alsacienne, avec modération, ça fonctionne pas mal. Merci Jean-Luc, je vous laisse retourner à votre cutter.
Au revoir Jean-Luc.
Préparez-nous des bons knacks.
Salut Pascal.
Et à très bientôt. Les amis, on se retrouve dans une minute, place du marché, pour continuer à dérouler ce tapis merveilleux, rempli de saucisses.
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, toujours place du marché à attendre notre bonne saucisse avec le livre « J'aime la saucisse » d'Emily Greenberg qui est avec nous en studio et Pascal Joly, meilleur ouvrier de France, charcutier à Paris. Alors, madame, monsieur, on va continuer à dérouler le tapis de la saucisse. On était en Allemagne, en Grande-Bretagne, tout ce que l'on trouve dans votre livre, hein, cette petite encyclopédie européenne, on va dire. Et on va descendre au sud quand même, parce que la saucisse, je vous le disais, elle est partout, et notamment autour de la Méditerranée. Hein. On dira peut-être un mot de la merguez tout à l'heure, pour ce qui est du Maghreb, mais aujourd'hui parlons aussi de l'Espagne, l'Italie, eux aussi ont leurs saucisses. Hein. Alors commençons par l'Espagne. Emily Greenberg, en feuilletant les pages, j'ai pas vu le lomo par exemple.
Non, je ne l'ai pas trouvé. J'aurais pu essayer, mais je ne l'ai pas trouvé. Et comme il fallait absolument que j'achète et que je goûte...
Et puis le lomo, ce n'est peut-être pas vraiment une saucisse, Pascal Joly. On ne peut pas considérer ça. Parce que qui dit saucisse dit hachage, quand même. Hein.
Oui, tout à fait. Mmh. Fabrication, quoi, on va dire. Préparation.
Ouais, préparation.
Là, c'est un produit plutôt emballé, quoi.
Ouais,
c'est un produit entier, quoi. C'est pas fabriqué.
C'est enrobé d'un boyau, voilà. Éventuellement. Mmh. C'est un peu comme la coppa en Italie. C'est-à-dire, en fait, c'est un morceau de viande de salaison.
Qui est emballé.
Bah, ça a la forme d'une saucisse, mais c'est pas vraiment une saucisse.
Non, c'est pas une saucisse.
Alors, en revanche, Émilie, le chorizo, oui.
Ah bah oui.
Ah bah oui.
Oui, le chorizo, oui. Alors, en Espagne ou le charissao en Portugal. Oui, oui, bien sûr.
Ah oui, parce que j'ai dit Espagne, mais il y a le Portugal aussi, une forte charcuterie. Alors, ce sont des pays de cochons, bien entendu. Donc là, on privilégie le travail du cochon et du beau cochon, évidemment, si on parle de cochon ibérique, etc.
Oui, complètement. Dans ce cas-là, vous avez le chorizo bellota, qui est très connu, très frisé. Bon, moi, je le trouve un peu écœurant, mais...
Ah bon, pourquoi?
Je trouve qu'il est trop fort, mais c'est vraiment personnel. Ouais, très fort, un peu gras, et du coup, j'en mange un tout petit peu. Quoi. Je ne vais pas me ruer dessus.
Oui, et puis souvent, il est piquant en plus. Hein.
Ouais. Ouais,
Pascal, aussi, vous en faites, vous, du chorizo?
Non, je ne fabrique pas de chorizo.
Ouais. Parce que vous, si vous prenez du chorizo, vous en vendez, en revanche.
Ah oui,
bien sûr. Mais vous vous fournissez en Espagne?
Oui. En fait, dans les produits secs, on se fournit en Espagne et en Italie aussi.
Bah oui, bien sûr. Parce que ça, là, c'est la saucisse de salaison, hein, qui est un peu différente de la saucisse fraîche, évidemment, parce qu'il y a les deux. Hein, la gamme de saucisses d'un charcutier comme vous, Pascal, vous diriez que vous en avez combien de différentes entre les saucissons, les saucisses, les salamis, les chorizo, etc. Une vingtaine, une trentaine.
Ouais, une bonne vingtaine. Ouais.
Et puis je parle même pas encore des boudins blancs.
Ah oui, Parce
que vous êtes normand, vous, donc le boudin c'est important.
Bah oui, tout à fait, exactement. Boudin noir, boudin blanc, ça fait partie de nos.
Surtout à l'approche des fêtes, hein. On y sera bientôt.
Ah bah ça y est, c'est parti. Un boudin blanc, on a démarré il y a une quinzaine de jours.
Bon, on va y revenir parce que c'est une saucisse, hein, le boudin aussi.
Oui.
On peut considérer que c'est une saucisse, Émilie. Vous le mettez en tout cas dans le livre.
Moi je l'ai mis. Moi, j'ai mis aussi l'andouillé et l'andouillette.
Ouais. Ah bah alors là. Voilà. On en fera une spéciale. Hein. Mais alors, ce qui est intéressant, par exemple, le boudin noir, il y en a de l'espagnol.
Oui, complètement.
Comment ça s'appelle?
Ça s'appelle la morcilla. Et vous avez avec des petits grains de riz à l'intérieur. Le boudin noir, dans ces régions-là, il est souvent accommodé soit avec du blé, soit avec du riz. Alors, vous l'avez en fin, vous l'avez en gros, par exemple, en très gros. Mm-hmm. Qui se mange plutôt froid, ou alors qui se mange frit. Ou alors vous l'avez en très grand, avec des gros morceaux de gras, et là vous le mangez froid. Mmh. Donc c'est très différent. Il y en a beaucoup aussi. Ouais.
Alors, je dirais, Pascal Joly, le boudin noir, donc on sait qu'à la base, c'est du sang de porc, qui est agrémenté alors d'oignons, d'aromates, etc.
Des épices, de pommes, des épis, enfin tout ça.
Et on a le sentiment que plus on descend au sud, à commencer par le Pays Basque, le Béarn, puis de l'autre côté Espagne, Portugal, plus on y met de viande, parfois de la tête de cochon, parfois des...
La langue...
Vous travaillez comment le boudin, vous?
Ah non, on fait basique, très simple, comme en Normandie, sans gras, oignon.
Ouais, voilà. C'est ça.
Des épices...
Des boudins viandés, on pourrait dire.
Non, on a un peu de crème, bien sûr.
On est en Normandie, quand même.
Voilà, exactement. On est plutôt dans la spécialité ouest de la France. Quoi.
Alors, un petit coup de chapeau et un petit salut amical à Sylvain Gazdon d'Orsay, qui est à côté de Paris.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Et qui a remporté l'an passé la médaille d'or à Mortagne-au-Perche. C'est un peu la Mecque du boudin, ça.
Ah, carrément, oui.
Devant 700 candidats. Hein. Je pense que quand on gagne à Mortagne, on doit faire un boudin qui est pas mal. Je l'ai goûté, il est sublime.
Ah oui, je sais. Il avait déjà été médaille d'or, mais là, il a vraiment décroché le prix.
C'est ça, c'est le Graal du boudin.
C'est un excellent professionnel. Hein. C'est un super copain, en plus.
Et le boudin blanc, en revanche, il peut être soit ardennais à base de cochon, mais le plus souvent, c'est fait avec de la volaille aussi, non?
Alors, ça peut se faire avec de la volaille. Nous, on le fait pur porc.
Ouais, d'accord. Voilà. Dites-nous, comment est-ce qu'on fait un boudin blanc? Qu'est-ce qu'il y a dans cette émulsion qui est la farce du boudin?
Il y a de la viande, bien sûr. Il y a à peu près 40% de viande, 10% de gras et 50% de lait. Alors, à contrario, c'est un peu la même fabrication que la saucisse de Francfort, sauf que là, c'est une émulsion chaude.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Donc, en quelque sorte, il est pré-cuit, quoi.
Ah, pas du tout.
Non.
Non. C'est-à-dire que quand les ventes sont passées au hachoir plaque fine, après on met cutter, comme la Francfort, sauf qu'après on incorpore les aromates, des œufs, et après on monte cette émulsion-là avec du lait qui est à peu près à 60 degrés. Et en fait, quand vous êtes en fin de cutterage, vous êtes aux alentours de 20-24 degrés. C'est ce qu'on appelle une émulsion chaude.
C'est ce qui va lui donner sa texture particulière.
Exactement. Mais ce n'est pas une pré-cuisson.
Bon. Émilie Greenberg, revenons à l'Italie et à l'Espagne. On a parlé de l'Espagne, c'est le chorizo, mais en Italie, c'est le salami.
Ouais.
Hein, c'est l'équivalent, c'est-à-dire la charcuterie de salaison, hein, puisque c'est grand salami. Et puis, alors le salami, tout le monde connaît, puis il y en a deux. Alors, un nombre incroyable hein, de formes, de diversité, de longueur, d'arômes.
Complètement. Mais en fait, il y a autant de... Enfin, c'est pas partout, il y a autant de variétés qu'il y a de charcutiers, ou qu'il y a de personnes chez eux qui ont envie de s'amuser et de faire des saucissons, des saucisses. Oui, oui, complètement, ouais.
Et on a pas seulement. Alors, il y a quand même en Italie une particularité, la plus grosse saucisse du monde.
Ah ouais.
Hein, énorme, jusqu'à 100 kilos, vous voyez de quoi je veux parler, du côté de Bologne.
Oui, oui. La mortadelle.
La mortadelle. La mortadelle, c'est une saucisse par définition.
Oui, bien sûr.
Hein, puisque là aussi, c'est du hachage, un peu comme une texture de cervelas, sauf que ça va jusqu'à. On dit autour de 100 kilos.
Oui, oui. Il y a des tailles, il y a des concours, c'est impressionnant, ouais. Non, c'est vraiment quelque chose. Et puis c'est bon avec ces petites pistaches.
Ouais, avec les pistaches, les petits grains de poivre. Alors, c'est même merveilleux, mais encore faut-il que ça soit artisanal. Et c'est vrai qu'on a tellement mangé de mauvaises mortadelles, et là, ça devient indigeste. Hein, c'est terrible, parce que, comme tout ce qui est haché fin, Pascal, le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc, ça, les industriels, ils vont pas de main morte pour mettre à peu près tout et n'importe quoi. Hein.
Ah bah généralement, bon, il y a pas mal de trucs mûches. Hein. Là, c'est sûr qu'il y a du polyphosphate, généralement. Il y a tout ce qui pour que ça tienne, des exhausteurs de goût.
Et puis, une belle saucisse hachée, je dirais pas trop fin, vous voyez quand même la viande qu'il y a dedans.
Ah oui.
Quand on voit pas, quand c'est haché super fin, ça permet de passer vraiment ce qu'on appelle en boucherie les lobeyes, les gobets, c'est-à-dire en fait tous les morceaux qui sont invendables autrement, quoi.
Ouais, oui, sans doute. Moi, je ne sais pas.
Je ne veux même pas savoir.
En industrie, mais je ne veux pas.
Il ne veut même pas savoir.
Non.
Bon, je me doute.
Non.
Je me doute. Alors, je vais me tourner moi vers un ami au téléphone. Encore un dans l'émission. C'est important. C'est Lucien Conquet. Bonjour, Lucien. Lucien. Non. Ah, il est encore sur la route, notre Lucien. Alors, Lucien Conquet, charcutier aveyronnais, boucher charcuterie aveyronnais de L'Aïol. Voilà, vous connaissez L'Aïol, évidemment. On l'appellera tout à l'heure, on va le rappeler. Hein. Si il est sur la route, c'est pas très grave, parce que je veux qu'il nous parle quand même de sa saucisse sèche, hein, parce que ça aussi, c'est une belle salaison. Pour en terminer avec l'Italie. L'Italie, écoutez, il y a une saucisse qu'on partage. Émilie, hein, comme ça, ça nous permettra, après la pub, de revenir sur enfin nos saucisses françaises, hein, pour faire un petit cocorico. C'est la chipolata. Chipolata, ça ne sonne pas extrêmement français. Donc, on se doute que ça vient d'Italie. La chipolla, c'est les oignons. Donc, la chipolata, en fait, c'est né de quoi ? D'une sorte de plat. C'était un plat de saucisses et d'oignons.
Voilà.
Hein, exactement. La chipo. Hein, est-ce que c'est la plus grosse vente, Pascal Joly ?
C'est une belle vente, oui. Mais nous, on vend plus le format saucisse de Toulouse.
Ah, c'est-à-dire plus gros, quoi.
Plus gros, ouais.
Ouais. Ouais. Vous la faites au mètre ou vous la faites aussi en portions ?
Alors, nous, on portionne.
Ah, noué, quoi.
Oui, mais à savoir que nous, on vend plus. On les fait cuire et on en vend plus cuites que crues, nous.
Ah, ouais ?
Oui. On fait des grands plats.
Ah bah ça c'est le côté traiteur parce que les gens viennent pour le déjeuner, ils prennent un morceau de saucisse de Toulouse avec soit des pommes de terre, du chou.
Voilà. Mais ça date aussi de l'époque où j'avais une entreprise à Rennes où là c'est le pays de la galette saucisse.
Ah ouais.
Et on en vendait énormément de cuites. Les gens achetaient la galette, la saucisse cuite et hop ils arrivaient chez eux.
Mes amis, si vous m'écoutez, écoutez-moi bien. Hein. Si vous allez en Bretagne, parce que ailleurs c'est un peu difficile, bon, quoi qu'il y ait des crêperies partout maintenant. La galette saucisse, à l'heure du marché, là, à l'approche de 11h, là,
c'est
on n'est plus
sublime.
Très loin. Hein, le dimanche matin, sur le marché d'Élysée. Attendez, c'est merveilleux ça. Ça donnerait presque envie de prendre le TGV, d'aller à Rennes. Rien que pour manger une galette saucisse avant le déjeuner. Parce que ça ouvre bien l'appétit.
Hein, ou après le match.
Ou après le match.
Voilà, des roulottes à galettes saucisses, il y en a partout. ça fume de partout, c'est extraordinaire.
Il y en a autant que des frites et des fricadelles du côté des Hauts-de-France. Alors, c'est pour vous dire. Allez, on revient dans une seconde. On a entamé ce Tour de France des saucisses par la Bretagne. C'est pas prêt de s'arrêter, à tout de suite.
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Nous n'avons pas terminé notre tour d'Europe, je dirais presque tour du monde de la saucisse. Mais en Europe, croyez-moi, il y a de quoi faire. Je crois qu'on pourrait en faire 5 émissions d'une heure, hein, pour vraiment aller au fond, au fond, au fond du cutter, au fond du hachoir, trouver des secrets saucisses avec nous. Émilie Greenberg, auteure de J'aime la saucisse, au moins c'est clair, c'est dit. Et avec nous également un meilleur ouvrier de France charcutier, c'est Pascal Joly, qui a des boutiques à Paris. Alors, on va vraiment faire un petit tour de France avant de se quitter, parce que je sais ce que je fais. Je le fais exprès, je vous donne faim. Au moment de partir faire votre marché avant le déjeuner, ben oui, vous aurez peut-être envie de saucisse aujourd'hui, c'est même sûr. Alors, on a parlé un petit peu de la Bretagne, on l'a évoqué, on a parlé de la saucisse de Toulouse, hein, qui est normalement une saucisse au couteau et au mètre, c'est-à-dire hein, que l'on coupe comme une saucisse à la perche. Hein, voilà. Et j'aimerais qu'on évoque quand même la capitale de la gastronomie française, qui est Lyon. Alors, sur le plan de la saucisse, là-bas, il y a évidemment le saucisson, hein, les saucissons, rosettes, saucissons de Lyon, etc. Mais surtout, il y a le cervelas. Le cervelas, truffé pistaché, saucisson à cuire. C'est une saucisse aussi, hein, Émilie.
Bah oui. Oui. Bah oui, c'est le même système. De la viande, un boyau, hop, une saucisse. Hop, c'est une simple. Saucisse. Hein, c'est... la définition, c'est quand même très, très simple. Hein. Boyau, ouais. Viande.
Alors, qu'est-ce qu'on met dedans, Pascal? Qu'est-ce qu'on met dedans, le cervelas?
Ah, ben, bah, notre cervelas, c'est, généralement, c'est de la viande de porc. Hum, hein. Mm-hmm. France, voilà. Et alors, sur cette spécialité lyonnaise-là, moi, je ne suis pas...
Le spécialiste.
Le spécialiste.
Bah, vous n'êtes pas lyonnais.
Je ne suis pas lyonnais, bon, donc oui. Voilà. Mais bon, pour avoir dégusté pas mal de choses chez mes amis lyonnais, c'est ouais. Fait, hein, c'est très bon. Hein.
C'est très bon, ouais, ça se cuit fort. À l'eau.
Hein, à l'eau, oui, tout à fait.
À l'eau frémissante, hein, Émilie,
ouais.
C'est ça,
ouais, toujours. Hein. Hein, c'est mieux frémissant.
Un peu comme la morteau.
Voilà, un peu comme la morteau.
Oui, parce que l'eau bouillante risque toujours de faire éclater
hein, ouais.
Le saucisson, la saucisse.
Ouais, faire attention.
Et puis moi, il y a un truc que j'adore, que font les Lyonnais, allez, je vous le dis en passant, c'est la brioche au saucisson. Ouais. Hein, ouais. C'est-à-dire une brioche avec un saucisson dedans, et puis vous coupez la tranche, vous avez la belle tranche de cervelas pistachée, avec la brioche au beurre autour. Ça, c'est gourmand, ça.
Oui.
C'est malin. Ils sont forts, hein. Ils sont forts, ces Lyonnais.
Ils sont forts.
Un petit mot d'un autre produit dont je voudrais parler, puisqu'on est à Lyon, avant de quitter Lyon, c'est la rosette. Alors, la rosette, c'est un saucisson asymétrique, hein, joli.
Oui.
Ouais.
Ah oui, tout à fait, oui.
Pour une raison simple, c'est que c'est le colon, quoi, donc, qui est le boyau. Voilà. Et ça se termine. La rosette, c'est en fait le surnom de l'anus du porc, hein, il faut bien le dire. Donc c'est là qu'on noue le saucisson. Mmh. Et du coup, c'est un boyau qui est assez épais et qui permet d'avoir un grand saucisson.
Exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Généralement, ça fait c'est des saucissons quand même qui font entre souvent 30 cm, 30-40 cm.
Hein. Ouais, c'est des belles bêtes dans un petit filet, là.
Exactement.
Un petit filet qui marque un peu le boyau. Du coup. Je dirais le saucisson de Lyon est un peu différent, le hachage est un peu différent, le saucisson et le gras est plus gros, hein, parce que là aussi il y a des différences de hachage, hein, même si le porc est le même, Émilie, hein, et ça on le sent à la dégustation de l'un à l'autre, et puis je parle pas encore de la fleur. Allez, on continue notre tour, on remonte un petit peu, on a parlé de la Morteau en préliminaire, Morteau et Montbéliard, un peu cette guerre jurassienne et doux. Il y a une saucisse moi que j'adore, ce sont, puisqu'on avait Jean-Luc Hoffmann tout à l'heure en Alsace, on n'a pas eu le temps de parler de toutes les saucisses alsaciennes. On a parlé de la knack, hein, cette saucisse de Strasbourg. On n'a pas parlé des tartinables, la fameuse tartinette. Qu'est-ce que c'est que ça?
Bah, c'est une toute petite saucisse. Alors, on ne mange pas la peau, hein, bien sûr. On enlève et on peut tartiner. On se fait des petites tartines, quoi. C'est une saucisse qui se tartine. Il y en a plein, des saucisses.
Comme
qui
la soubressade à Majorque.
Exactement. Voilà. Ah, mais il y en a plein. Il y en a en Allemagne. Enfin, ils ont beaucoup. C'est, on dirait une espèce de pâté, en fait. On pourrait dire.
Ouais, c'est une saucisse de foie. Ouais.
Voilà.
Ouais.
J'ai déjà dégusté ça.
Le fameux Leberwurst, hein, comme disent les Allemands. C'est une saucisse de foie.
Une saucisse de foie tartinable.
Oui, donc en fait, le boyau n'est qu'un moyen de contenir cette pâte de foie, en fait. Parce que c'est un peu un pâté de foie, mais dans dans une forme de saucisse.
Oui.
Hein, ce qui permet de la conserver, hein, parce que la saucisse, ça sert à ça.
Mais ça,
aussi,
ça cuit quand même dedans.
Ah, ça cuit à l'intérieur.
Oui,
c'est étuvé.
C'est poché, oui.
D'accord. Et ça se trouve, alors bon, ça se trouve évidemment plus facilement en Alsace.
En Alsace.
Ah ouais, là, voilà. Et puisqu'on était en Alsace, on va remonter Grand Est du côté de la Champagne. Voilà, moi, ça me parle au cœur directement, étant depuis un bon bout de temps à la fameuse 5A, l'Association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques, l'andouillette. L'andouillette, c'est une saucisse?
On peut considérer ça.
En tout cas,
moi,
comme
je l'ai
une saucisse,
mais. Hein, c'était obligé. Moi, je l'ai mise, mais
alors,
après...
Parce que c'est emballé.
Parce que j'ai fait un appert, peut-être, je ne sais pas.
Non, mais en tout cas, vous avez raison, ça a la forme. Bon, alors, on peut considérer que c'est dans la grande famille de saucisses, comme l'andouille, hein, en Normandie et en Bretagne.
Oui.
Hein, alors, si je puis apporter une petite précision, parce que là, je suis sur mon terrain, l'andouillette, elle n'est pas poussée, la bonne, elle n'est pas poussée ou embossée, c'est-à-dire qu'on ne pousse pas les morceaux de, les morceaux de d'estomac de porc, de panse, et à l'intérieur, mais elle est habillée, c'est-à-dire qu'en fait, comme une chaussette, on tire le boyau autour,
on l'emballe, hein,
d'où l'appellation à la ficelle, qu'on tire au travers du boyau, on tire des grandes lanières avec une petite cordelette.
Exactement.
D'où l'appellation. C'est comme ça qu'on fait la belle andouillette.
Ah, tout à fait.
Pour l'andouille, c'est différent. Alors vous êtes normand, c'est sûr qu'il y a une grande bataille en France, hein, un derby, on disait les normands et les bretons se tirent toujours la bourre. Et ben, sur le cidre, c'est sûr, sur le football peut-être aussi, mais surtout sur l'andouille, parce que l'andouille de Guéméné sur Scorff, qui est dans le Morbihan, et bien, c'est un peu la bataille avec l'andouille de Vire.
Ah bah oui, mais c'est deux produits complètement différents. Ils sont fabriqués d'une façon complètement différente. L'andouille de Vire, c'est des grandes lanières de panse et de chaudin sur le même système de, comment je veux dire, qu'une andouillette 5A. Hein, on emballe ça comme ça, donc la baudruche. Voilà. Après, l'autre andouille de Guéméné, c'est des couches de boyaux superposées les uns sur les autres.
C'est ça, comme des chaussettes qu'on enfile les unes par-dessus les autres.
Donc, c'est deux spécialités complètement différentes. Mais les deux sont super. C'est extraordinaire.
Et fumage naturel.
Et fumage naturel, bien sûr.
Parce que partout, on a le droit d'utiliser dans l'industrie un badigeon au goût fumé, Émilie.
Je ne veux même pas savoir.
Ah ouais, elle ne veut pas savoir. Je comprends.
Non, mais je privilégie les.
Beaucoup de charcuterie, beaucoup de saucisses, de saucissons sont fumés. Qui est un mode de conservation, en plus du sel. La façon de fumer, évidemment, alors quand c'est au bois de sapin, par chez moi, là-bas, en Franche-Comté, ça donne un goût particulier, mais enfin, il n'y a pas que ça, il y a du hêtre aussi.
Du hêtre,
plutôt en Normandie, c'est plutôt
hêtre. Le hêtre,
bon, écoutez les amis, on a retrouvé Lucien Conquet, c'est pas beau ça, hein, à deux minutes de la fin de cette émission. Lucien, sur la route alors?
Sur la route, oui, oui.
Eh oui, en train de monter à la capitale pour son week-end, son dimanche Rouerga. Alors, Lucien, je voulais juste un mot. Hein. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, mais vous avez vraiment une spécialité à l'Aïeul qui est le saucisson et la saucisse sèche. Hein, la saucisse. Oui. Alors, cette saucisse sèche, qu'est-ce qui lui donne son goût particulier? Parce qu'on a beaucoup parlé... du cochon qu'on met à l'intérieur, et je sais qu'en Auvergne et dans le Rouergue, on trouve des dans le massif central des beaux cochons, mais c'est aussi la fleur. Parlez-moi de la fleur sur le saucisson.
Mais en fait, la fleur, c'est une fleur naturelle qui a toujours été dans nos séchoirs.
Attendez, pour ceux qui nous écoutent, ils ne savent pas ce que c'est qu'une fleur déjà. On parle bien sûr de petites moisissures.
De petites moisissures, oui, parce qu'on ne dit pas moisissure, on dit.
Bah non, non, parce que moisissure, ça ne fait pas envie. Hein. On préfère parler de fleurs.
On parle de fleurs comme c'est beaucoup plus joli parce que c'est la fleur du saucisson. Elle est spécifique au saucisson. Elle est un peu grisâtre. Et en fait, ça vient de nos ancêtres qui séchaient les saucissons dans les greniers. Et cette fleur, elle s'estore, c'est comme une pipe. Vous voyez dans les séchoirs elle s'estore et puis c'est comme une pipe quand elle est culottée.
Voilà, c'est ça. Elle perdure quoi, dans le séchoir et elle va ensemencer toutes vos salaisons quoi, en quelque sorte.
Oui, toutes nos salaisons. Et puis on a que le droit à mettre des barres en bois. Et les barres en bois, c'est ce qui permet, le bois permet à cette fleur de se développer.
Quoi. Eh oui, oui, parce qu'évidemment, il y a une humidité qui reste dans le bois. Lucien, là encore, j'ai 30 secondes pour vous demander. Cette fleur, c'est ce qu'on sent hein, quand on rentre dans un séchoir à saucisses sèches comme les vôtres.
Oui.
Hein, c'est la première impression olfactive qu'on a. Hein.
Bien sûr, puisque en fait, c'est la fleur, ça évite le croûtage.
Eh ouais.
Les industriels, ils vont sécher ça avec des grandes souffleries et puis c'est sec.
Des farines de riz.
Voilà, des farines de riz, bien sûr. Hein et cette fleur, on fait juste que la brosser. Et c'est elle qui permet de... Bon, déjà, elle permet... elle évite le croûtage au niveau du séchage.
Séchage
beaucoup plus lent. Et en fait, après, c'est cette saveur qui est spécifique à notre charcuterie, quoi, voilà.
Ah, génial. Ouais. Vous m'avez donné carrément envie d'un sec beurre, comme on dit, un saucisson sec dans une belle baguette de tradition. Merci, voilà. Lucien, je vous laisse reprendre la route. C'était sympa de passer ces deux minutes avec nous pour nous faire rêver de belles saucisses Rouergat. Voilà. Et bon marché à vous. Hein.
Merci
nous aussi.
Beaucoup, le marché de l'Aveyron, à Bercy.
Voilà. Eh ouais, comme si on y était. Merci, merci. Salut, merci. Lucien. Mes merci. Amis, il me reste très peu de temps, juste le temps de remercier Émilie Greenberg d'être venue nous donner envie de saucisse avec son livre « J'aime la saucisse ». Elle cherche encore un éditeur, hein, parce que le livre est fait, mais pour l'instant, c'est elle qui paye tout. Alors, il faudrait quand même qu'un éditeur se soucie. En plus, c'est vraiment c'est très œcuménique. Hein, ça peut se vendre partout en Europe, hein, puisqu'il y a tout dedans. Pascal Joly, merci. On va le laisser aussi, puisque c'est dimanche. Il y a des ventes importantes hein, en charcuterie. Hein, l'heure du déjeuner approche. Il a délaissé ses boutiques pour venir nous parler, être notre spécialiste saucisse. La semaine prochaine, ça sera le premier dimanche des vacances de Toussaint et on va s'intéresser à un problème qui touche nos enfants hein, dans les écoles, puisque vous avez entendu parler de cette fameuse journée végétarienne à la cantine. Alors on va se poser la question de savoir si ça va être mis en place, parce qu'on ne sait toujours pas de décret d'application. Quels sont les bons élèves, les mauvais élèves? Quelles sont les réalités? Va-t-on faire manger plus de légumes à nos enfants? Moi je dirais qu'après ce dimanche saucisse, on se rachète un petit peu avec plus de légumes. Allez, bon dimanche à tous et à dimanche prochain.